Écho d'économie.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter Écho d'économie. La croissance économique de la RDC en 2023 devrait dépasser 6% malgré la chute des prix du cobalt et l'insécurité à l'Est. La situation budgétaire du pays s'est détériorée et l'inflation s'est accélérée. Les services du FMI et la RDC sont parvenus tout de même à un accord en perspective de la 5e revue du programme économique triennal soutenu par la facilité élargie du crédit du gouvernement. Mais cet accord doit attendre l'approbation à mi-décembre du conseil d'administration du FMI. Les ministres du commerce des pays éligibles à l'AGOA et une délégation de haut niveau des États-Unis d'Amérique se retrouvent à partir du 2 au 4 novembre pour le forum AGOA 2023. L'AGOA, c'est la loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques à commercer avec l'Afrique. Merci de nous écouter chez vous. La mission du FMI venue à la rencontre des officiels congolais dans le cadre de la 5e revue du programme triennal conclu avec le gouvernement congolais est arrivée au terme de son travail. À la clé, un compromis est trouvé avec la RDC. Il reste que le conseil d'administration du FMI le valide en mi-décembre prochain. Mais que retenir de l'analyse des experts du FMI, des agrégats macroéconomiques de la RDC, Cynthia Bachizi?
Pour les experts du FMI, la croissance de l'économie congolaise demeure résiliente en dépit de son environnement difficile et incertain. Cette croissance devrait dépasser 6% en 2023 malgré la chute des prix du cobalt et de l'insécurité dans la partie est du pays. Ils disent aussi que la situation budgétaire de la RDC s'est détériorée et que l'inflation s'est accélérée. La dépréciation du franc congolais a pesé sur l'inflation qui a atteint le pic de 23% sur un an en juillet 2023. Avant de retomber légèrement en dessous de 22% en octobre 2023. Les recettes intérieures du gouvernement ont été inférieures aux projections du programme en cours des trois premiers trimestres de 2023. Les réserves internationales brutes ont augmenté modérément pour atteindre environ 5 milliards de dollars américains à la fin du mois d'octobre 2023. La position extérieure étant confrontée à plusieurs vents contraires, les recettes fiscales minières libellées en dollars ont été inférieurs aux prévisions, disent les experts dans leur document de fin de mission. Garder sous contrôle les dépenses non essentielles, rationaliser les dépenses en biens et services, nécessité pour la Banque centrale du Congo qui devrait renforcer la mise en œuvre de sa politique monétaire pour contenir les pressions inflationnistes et améliorer la bonne gouvernance en publiant en temps opportun les contrats miniers sont les trois grandes recommandations du FMI.
La ville de Johannesburg abrite du 2 au 4 novembre le forum sur l'AGOA 2023. L'AGOA, c'est la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. L'événement va réunir une délégation de haut niveau des États-Unis d'Amérique et des ministres de commerce des pays d'Afrique éligibles à l'AGOA. Sauf imprévu, la RDC devrait être représentée par une délégation du ministère du commerce extérieur conduite par le ministre Jean-Lucien Boussa. Les contours et l'avenir de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique seront au cœur des enjeux de ce forum. Plus de détails avec vous, Cynthia Bachizena-Bizana.
Vieille de deux décennies, l'AGOA est cette loi américaine qui permet que des produits africains soient exportés vers les États-Unis sans payer les droits de douane. Cette loi est au cœur de la politique économique et de l'engagement commercial des États-Unis vers l'Afrique. De l'avis du ministre du Commerce extérieur, l'AGOA a permis d'accroître le volume de commerce entre la RDC et les États-Unis. Jean-Lucien Boussa.
Lorsqu'on a été admis à l'AGOA, nous étions à un niveau d'exportation au-delà des 600 millions de dollars américains. 600 millions, c'est beaucoup et c'est peu. C'est beaucoup lorsqu'on est parti d'un chiffre, moins que cela. Mais c'est rien lorsqu'on prend la dimension nationale, la dimension internationale du commerce. Okay? Et lorsque nous sommes sortis de l'AGOA, l'année où nous reprenons, nous étions à 30 millions de dollars seulement, nos exportations vers les États-Unis. Avec le retour à l'AGOA, nous en sommes arrivés à plus ou moins maximum 300 millions de dollars américains.
Mais l'AGOA expire en 2025. Ce forum qui s'ouvre ce 2 novembre en Afrique du Sud va servir de cadre pour évaluer les progrès réalisés à ce jour, discuter de la possibilité d'améliorer mais aussi du renouvellement de l'AGOA jusqu'en 2045, tel que souhaité par les pays africains, notamment la RDC.
Quittons Kinshasa pour le Nord Kivu, le point focal de l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit APROSEC félicite la population du Nord Kivu pour ses efforts à mettre en place des initiatives pour développer sa résilience et son autonomie financière. C'est notamment la création des associations villageoises d'épargne et de crédit avec, en abrégé, qui connaissent aujourd'hui un essor considérable. Reconnaissant cependant que ces associations villageoises n'ont pas mandat de garder les épargnes, Henri Mouzalioua les appelle à travailler ensemble avec les coopératives pour une meilleure sécurisation de leurs épargnes. Henri Mouzalioua au micro de Denise Loukesso.
Les bonnes AVEC sont dans des coopératives d'épargne et de crédit. Parce que les AVEC n'ont pas le mandat de garder les épargnes. Les AVEC sont en quelque sorte en train de constituer l'intermédiation aussi entre la population que jusque-là les coopératives n'avaient pas encore atteint pour collecter cet argent et les aider à amener cet argent au sein des coopératives. Donc on ne parlerait pas des AVEC sans coopérative qui est agréée par la Banque centrale du Congo. Nous invitons tous les dirigeants des AVEC à venir déposer leurs épargnes au sein des coopératives agréées par la Banque centrale parce que il y a des mesures sécuritaires, il y a la réglementation et autres, afin qu'ensemble nous puissions aider cette population à aller de l'avant et nous devons lutter contre tout ce qui pouvait encore endeuiller la population après ce qui s'est passé dans les secteurs.
Écho d'économie.
Place à l'invité de l'économie. La société Samcret, chargée d'exécuter les travaux de la RN1 dans son tronçon compris entre Mbujima et Kananga, est sommée de justifier environ 24 millions de dollars américains par l'IGF, cela avant tout décaissement de fonds supplémentaires pour la poursuite de travaux. Nous vous en avons parlé certainement dans nos précédentes émissions. Aujourd'hui, Écoute Économie y reçoit pour vous le directeur général de cette entreprise incriminée pour tenter de comprendre ce qui est reproché à Samcret. Rami Bassim, c'est lui le directeur général de Samcret, dit ne pas comprendre cette sortie médiatique de l'inspection générale des finances qu'il juge non fondée. L'invité de l'économie Rami Bassim s'entretient à ce sujet avec Cynthia Bachizina Bizana.
Rami Bassim, bonjour.
Bonjour.
Alors, le contrat pour la construction de la route Mbujima et Kananga a été signé au Caire en 2021 pour une durée initiale de 33 mois. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2023. Qu'est-ce qui a été déjà fait? Quel est le taux de réalisation des travaux?
Au commencement, je veux dire que le projet et le contrat est signé le février 2021 à la présence des deux présidents de République démocratique du Congo et de l'Égypte. Ça doit commencer directement après que l'FPI nous verse le somme de 30% du projet contre lettre de garantie. Le premier temps, ils ont dit qu'il y a un peu des problèmes financiers. Ils veulent qu'ils versent 9% seulement, pas 30%, et qu'on commence avec ça. On a accepté. C'était au mois de décembre 2021. Le montant versé, c'était versé fin avril 2022, ça veut dire un an et deux mois après la signature du contrat. Et c'était, comme j'ai dit, 9% qui est 27 millions de dollars, pas 90 millions de dollars comme prévu. On a dit « Ok, pas de souci, on peut commencer ». Et dans 6 mois, le reste doit être versé pour qu'on commence totalement le projet complet et qu'on commence à compter la durée.
Donc si je comprends bien, aujourd'hui, vous attendez encore un versement de 27 millions de la part du FPI.
Pas seulement 27, c'est 63 millions.
63 millions.
27, c'était une fois qu'ils ont venu nous dire que l'IGF nous bloque et on peut verser 27 millions de dollars. On a dit aussi... Ok, nous, on a la volonté de continuer le travail. On sait les problématiques financières, pas seulement sur l'RDC, mais c'est sur le monde entier. On comprend et on veut continuer.
Alors aujourd'hui, pour bien comprendre, l'IGF refuse justement de valider une avance de 27 millions de dollars. De quoi est-ce qu'il s'agit?
Franchement, je ne sais pas. Comme c'est contre lettre de garantie, ça va dire que on est en train de travailler avec... Nos argent.
Votre argent, okay. Les 63 millions.
Les 63 plus les 27.
Les 27.
Et il y a 15 millions qui est aussi contre une garantie de performance bond. Ça veut dire que tout est sécurisé chez eux. Ce que l'IGF veut faire, contrôler comment on a dépensé les 27 millions. Et comme ce n'est pas un paiement, c'est décaissement, par loi, ce n'est pas possible. Et par le contrat, on n'a pas reçu le propre fonds pour travailler sur le route complet.
Alors, vous avez quand même reçu une partie de l'argent. Qu'est-ce qui a déjà été fait sur terrain?
Sur terrain, on a mobilisé l'équipe des engins, pas toutes. On a commencé à travailler sur le premier lot. Le projet est divisé pour 13 lots, à peu près équivalent, 15 à 16 kilomètres chacun. On est en train de travailler sur les 15 kilomètres, premiers 15 kilomètres. On a acheté des matériels et matériaux qui sont traînés au port depuis, il y a des engins qui sont là-bas depuis le mois de février. 2500 tonnes de bitume qui est au port entre Matadi et Kinshasa. Et ça nous cause des problèmes. Nous sommes en train de dépenser, payer pour les gens qui sont sur terrain. Et à la fin, le taux de travail, nous ne sommes pas contents avec ce taux de travail.
Il est de combien? L'IGF parle de 11%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce pourcentage avancé par l'IGF?
C'est pas grand. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Mais à la fin, c'est pas bon. Nous ne sommes pas contents. Mais comment on peut exécuter le travail sur site sans les engins, sans les matériels, sans quand même avoir les obstacles qui sont sur terrain, sans pas résoudre?
Est-ce que vous avez déjà adressé ces difficultés-là pour pouvoir trouver une solution et continuer le travail sur terrain?
Normalement, on...
Pourquoi avoir attendu maintenant pour évoquer tout ce blocage-là?
Nous, on adresse dès le début tous les problèmes avec le maître d'ouvrage qui est l'FPI. À la fin, l'FPI, ça appartient au ministère de l'Industrie et c'est le gouvernement. Mais on adresse. Ça doit être que tous les parties doivent rester sur une table et avoir une solution.
Vous êtes prêt à aller en arbitrage si vous ne trouvez pas une solution à l'amiable avec votre partenaire, le gouvernement?
Ça sera une option, mais on laisse ça jusqu'à la fin. Mais à la fin, on a des droits, car on est en train de faire des dépenses, on était dédiqué pour le projet. Vous connaissez, si on a un grand projet comme ça, il y a l'équipe, les gens qui sont sur ça. On laisse d'autres opportunités. Si on n'a pas gagné ce projet, on est en train de voir d'autres projets. Mais on a dédiqué des ressources, des gens sur place pour ce projet-là. Ça veut dire que si on ne le fait pas, il y a des pertes.
Rami Bassim, je vous remercie.
Merci à vous.
C'est la fin de Écho d'économie sur Radio Capi, mais vous pouvez les réécouter au plaisir et en continu sur www.radiocapi.net.